morning edition from NPR News.
Même si Jean Sandine de Housey.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, direction le Chili, une contestation sortie de sa boîte, étonnamment sortie d'un coup, mais les inégalités sociales criantes ne datent pas d'hier. Cette contestation était donc en gestation sans doute et on y vient tout de suite. On essaie aussi de s'interroger évidemment sur ce qui peut sortir de cette crise qui a déjà fait 11 morts. Le bruit du monde est à Cuba ce soir, qui a rendu hommage à Alicia Alonso tout ce week-end. Amélie Perrier, elle, nous parle de gorilles en RDC et de James Joyce en Irlande. Le Monde selon Trump saison 3 et Loïc Glory ce soir qui revient sur le G7 dans l'hôtel de Trump. Ce sont bien les républicains qui lui ont demandé de faire marche arrière. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four au Liban ce soir. Jean-Marc qui nous explique pourquoi ce soulèvement-là est très différent des printemps de 2011. Le Monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Cécile Falliès. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en géographie à Paris 1. Vous êtes spécialiste de la géographie du développement. Votre jardin, c'est l'Amérique latine et tout particulièrement le Chili. Bonsoir à vous, Justine Fontaine aussi. Vous êtes Bonsoir. La correspondante de France Inter à Santiago. On est content de vous happer avant que vous preniez le dernier avion, dès demain matin. Cécile Falliès, d'abord, on parle d'irruption de violence, de contestation. On a beaucoup dit, mais dans ce pays modèle qui subitement, je le disais tout à l'heure, sort de sa boîte. En même temps, pour exploser de cette manière-là, ça veut dire qu'elle couvait très sérieusement cette contestation.
Alors l'irruption de la violence, là, dans les jours qui précèdent, elle vient surtout de l'État, en fait, et de l'envoi de l'armée dans les rues, donc de 10 000 militaires.
Il y viendra, 10 000 militaires au Chili, c'est jamais très anodin.
Les violences ne sont pas tant le fait de la population civile. Alors il y a une situation d'émeute, notamment ciblée autour de quelques stations de métro de Santiago, et sinon... Voilà.
Et sinon, mais c'était pas le sens. Enfin, c'était aussi le sens de ma question, mais pas seulement l'irruption de contestation aussi. En fait, est apparue très soudainement, très soudain aux yeux de certains, alors que cette contestation, j'imagine, couvait depuis longtemps.
Alors oui, au vu de pas mal de personnes. Hein, j'étais à un colloque international jeudi et vendredi à Paris sur habiter les villes latino-américaines, où il y avait plusieurs collègues spécialistes du Chili qui étaient présents, et on en a pas du tout parlé. C'est vraiment dire que ça s'est passé dans la nuit pour nous ici. De vendredi à samedi. Donc c'est vraiment très soudain, mais on n'est pas surpris du tout. Quand on connaît un peu le Chili, pour y avoir vécu ou pour y avoir fait des recherches, en raison du niveau très fort d'inégalité dans ce pays, un des plus forts d'Amérique latine.
Il y a un chiffre que j'ai trouvé en préparant cette émission qui dit, c'est un chiffre de l'OCDE, je crois, qui dit que c'est le Chili le 113e pays sur 133 pour ce qui est des inégalités. Ça veut dire en gros que ce pays est possédé, on va le dire comme ça, par 4 familles.
Tout à fait.
Et le reste, pardon de le dire comme ça, se débrouille en quelque sorte.
Alors par 4 familles, dont une est au pouvoir actuellement, notamment donc la famille du président actuel.
Du président Piñera.
Tout à fait. Et avec sinon des taux de pauvreté encore très importants, notamment dans les régions rurales du sud du Chili, donc chez les Indiens Mapuches, mais pas simplement aussi en ville. Un contexte urbain.
Je disais tout à l'heure qu'on a longtemps parlé du modèle chilien. Vous parlez du président Piñera qui a dit il y a encore quelques jours, qui a parlé d'oasis en parlant de son pays. Ce que ça dit aussi, et c'est peut-être ce qui explique la rapidité de cette contestation, ce que ça dit, c'est qu'il le voit pas, son pays vivre et bouger, ce président Piñera, ou pas?
Alors, effectivement, c'est un oasis pour les tenants d'une économie ultralibérale, qui en ont fait un modèle de développement à partir de la visite, notamment de Milton Friedman de l'école d'économie de Chicago au Chili en 1975, qui a imposé ses doctrines néolibérales. Donc, c'est le modèle parfait. Donc, après, on a entendu parler du miracle chilien en termes de croissance, du jaguar d'Amérique latine, etc. Alors, effectivement, en affichant des taux de croissance assez indécents quand on regarde depuis l'Europe dans les années 90-2000, mais plus si important maintenant. Et c'est peut-être là que le bât blesse aussi, c'est que tous ces modèles de développement qui pariaient sur des taux de croissance de 5% à 10%, là on est plutôt autour de 2%. Et donc la classe moyenne qui a essayé de se constituer un petit peu pendant ce temps, bah, elle se retrouve un peu déçue parce que la vie est de plus en plus chère au Chili.
La vie est de plus en plus chère et surtout tout, d'après ce que je crois comprendre, est privé ou quasiment en fait. On parle de l'eau, on parle de l'éducation, on parle des transports, on parle de la santé. Au fond, est-ce qu'il reste un service public dans ce pays ? Est-ce qu'il existe, on va plutôt le faire comme ça, est-ce qu'il existe un service public digne de ce nom, on va dire, dans ce pays ou pas ?
Pour moi, il n'en existe pas. Hein. Enfin, en tout cas, si on compare évidemment à la France. Alors, dans certains secteurs, effectivement, il peut y avoir des aides aux plus pauvres, hein, que ce soit dans l'agriculture, par exemple, ou aussi dans l'éducation. Mais il est de très très mauvaise qualité.
Il y a une chose qui m'a fait rire, non, c'est pas le mot, au moment où commence cette contestation. Donc, on l'a déjà dit sur le prix du ticket de métro. Il y aurait quelqu'un dans les arcanes du pouvoir qui aurait dit, écoutez, c'est facile, il suffit de se lever plus tôt. Et comme ça, on évite le pic de l'heure de pointe, en fait, Justine Fontaine.
C'est le ministre de l'économie. Après l'annonce donc de la hausse du ticket de métro de 30 pesos, donc ça paraît une hausse très faible parce que ça fait à peu près 4 centimes d'euros seulement si on le rapporte en euros. Il a dit dans une interview à la télévision, il a dit le tarif en heure creuse n'a pas augmenté, donc il faut prendre le métro à l'heure creuse, alors que les gens déjà passent souvent plus de 2 heures dans les transports en commun, et que s'ils ont des horaires fixes de travail, ils vont pas arriver une heure plus tôt au travail.
Vous parlez de 2 heures de transport en commun, c'est important à savoir aussi, c'est une ville tentaculaire, il y a 7 millions d'habitants, donc évidemment que les transports en commun ont une importance énorme. Ça me faisait sourire pour ces raisons-là, dans l'impression d'entendre Marie-Antoinette dire mais ils ont qu'à manger de la brioche. En gros, mais c'est le même genre de décalage, on va dire. Justine Fontaine, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que disent vos amis chiliens que vous avez pu avoir au téléphone aujourd'hui, au moment où ils se lèvent ? Alors n'exagérons rien, mais à la mi-journée, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? À quoi ça ressemble là maintenant où on se parle ?
Ce matin, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'était un peu plus calme quand même que ce week-end, mais le matin, ça a toujours été plus calme que le soir. Là, en ce moment, il y a des rassemblements qui ont lieu à Santiago ou dans plusieurs autres villes du pays. Donc, faut voir ce qui va se passer dans l'après-midi là-bas, dans la soirée ici. Et probablement s'ils reconduisent le couvre-feu, parce que c'est quand même en fin d'après-midi souvent qu'il y avait eu des problèmes, soit de violence policière, soit aussi de saccage, pillage à divers endroits. Les transports sont quasiment tous à l'arrêt. Enfin, en tout cas, le métro fonctionne pas sauf sur quelques stations.
Est-ce qu'on envoie les enfants à l'école, par exemple ?
Dans la majorité des communes de la région de Santiago, non. Et dans d'autres régions aussi, il y a des cours qui ont été suspendus dans pas mal de régions. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller travailler aujourd'hui.
Est-ce que c'est une... À quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça dit dans les rues de Santiago quand il y a 10 000 policiers dans la rue ? Encore une fois, je disais tout à l'heure que ça n'avait rien d'anodin, en fait. Qu'est-ce que ça dit aux gens ? Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ces manifestants sont assez jeunes. Donc ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas connu les années Pinochet, la dictature et ce rôle-là de la police, en fait. Qu'est-ce que ça leur dit à ces gens quand il y a 10 000 policiers comme ça dans la rue ?
C'est 10 000 policiers et militaires. Donc c'est surtout de voir les militaires dans la rue qui a choqué pas mal de personnes, les personnes qui ont vécu la période de la dictature et notamment celles qui étaient proches de l'opposition. Pour ces personnes-là qui sont plus âgées et qui n'ont pas participé tout de suite au rassemblement, mais qui pour beaucoup soutiennent ces rassemblements, c'est très choquant parce que ça leur rappelle les heures de la dictature. L'état d'urgence à Santiago pour un mouvement social, ça n'avait pas été décrété depuis la période de la dictature, c'était encore sous Pinochet. Le couvre-feu, ça n'avait pas été décrété à Santiago depuis 1987. Donc à cette époque-là, les gens, quand ils sortaient dans la rue, risquaient de mourir sous les tirs des militaires ou d'être arrêtés et qu'on ne sache plus ce qu'il advenait d'eux.
Est-ce que ça veut dire que quand on est un Chilien qui n'a pas connu cette période-là, qui vit à Santiago, quand les militaires ont des attitudes comme celles qu'ils ont pu avoir ce week-end, est-ce qu'ils tombent de leur chaise au fond parce que ce sont des scènes que non seulement ils n'ont pas vues eux, mais que surtout ils n'imaginent plus de leur armée ? Ou est-ce qu'au fond, on se dit, chasser le naturel, il revient au galop ?
Je ne saurais pas forcément répondre bien à cette question sur la distinction peut-être entre l'attitude des manifestants par rapport aux militaires ou aux policiers. En tout cas, il y a des violences policières qui ne sont pas nouvelles dans beaucoup de manifestations, notamment les mouvements sociaux depuis 2011, où il y a eu des grandes manifestations étudiantes, puis des manifestations pour la réforme du système des retraites. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau. Après, je pense que les gens sont un peu choqués de voir les militaires dans la rue d'une manière générale. J'ai oublié la suite de la question.
Non, je me demandais en fait, non, je me demandais si il y avait une espèce de choc de la part de la population, n'attendant pas ça de son armée en fait, parce qu'ils avaient au fond perdu l'habitude que c'était ça l'armée chilienne. Vous voyez ce que je veux dire?
Bah, ce que j'ai pu voir moi à distance, c'était sur certaines vidéos donc de manifestations dans le centre de Santiago dimanche, il y avait un groupe de manifestants qui marchaient en direction des militaires, les militaires qui reculaient avec les armes pointées vers les manifestants et qui ont fini par tirer des tirs au plomb sur le pied d'un manifestant. Il y a un autre manifestant qui était blessé, donc au moins deux blessés à ce moment-là. Les militaires sont associés quand même à la répression sous la dictature, y compris pour les personnes qui n'ont pas vécu la dictature. Et ils ont été discrédités aussi ces derniers mois et dernières années parce qu'il y a eu un gros scandale d'abus de biens sociaux et de détournement de fonds de la part de militaires de haut rang qui ont détourné des millions de dollars. Et c'est une des causes aussi d'un sentiment de déconnexion des élites chiliennes par rapport au reste de la population, qui a du mal à finir son mois, qui paye très cher le métro, les services publics, pas toujours de bonne qualité.
Et Cécile Faliès, est-ce que il y a une raison pour que ça explose sous Piñera, ou au fond les choses auraient pu exploser de la même manière sous Michel Bachelet peu avant? Justine le rappelait, il y a eu une première période, on va dire en 2006, la fameuse révolution des pingouins. Il y a eu 2011 derrière, qui était au fond la même génération un peu vieillie. Est-ce que tout cela aurait pu exploser de la même manière sous un gouvernement de droite ou de gauche au fond?
On est quand même dans un contexte, alors c'est un peu perdu de vue maintenant, mais dans le contexte des gouvernements de la concertation, donc qui ont suivi la dictature, donc avec ces alliances entre centre-droite, droite, centre-gauche, qui sont pas toujours très claires en fait pour la population, et qui sont aujourd'hui en fait déçus de la classe politique, quelle qu'elle soit. Alors sous Michel Bachelet, ça s'est pas passé. Effectivement, il y a eu plus de contestations sous Piñera lors de ses deux mandats que sous Bachelet, mais ça aurait pu tout aussi bien se passer. Je pense que là, il y a un effet, je dirais presque démographique, social, qui a gonflé en fait, y compris parmi des classes sociales qui n'étaient pas contestataires jusqu'ici.
Est-ce qu'il panique, le président Piñera, quand on pense à l'envoi de 10 000 de ces 10 000 soldats? Est-ce que vous avez l'impression qu'il panique? Est-ce qu'il sait maîtriser cette situation-là? Est-ce qu'il est, lui, capable de remettre le dentifrice dans le tube, en gros?
Alors, heureusement, je suis pas dans sa tête.
Non, non. Certes, non.
C'est très difficile de le savoir. Effectivement, il fait référence en décidant de l'envoi des forces armées à une situation qu'a connue le Chili par le passé, de façon, je pense, très maladroite. Oui. Effectivement, et ça remet la population dans une situation de guerre dans laquelle elle ne se trouve pas. Aujourd'hui, moi, les amis que j'ai au téléphone ne disent pas qu'ils sont en guerre.
Il y a que Piñera qui
Il y a que lui qui voit de la guerre. Donc c'est une déclaration effectivement d'hostilité, mais c'est effectivement peut-être pas très politiquement.
Politiquement,
très raisonnable de sa part.
Qu'est-ce qu'il a raisonné, Justine? Vous le voyez prête à intervenir.
On a l'impression qu'il était quand même complètement pris de court par rapport à ces manifestations, et il a réagi d'abord en décrétant l'état d'urgence. Donc je le disais, ça n'avait pas été décrété à Santiago depuis.
J'allais dire réagir à l'ancienne.
La dictature
en fait,
pour un mouvement social. Donc ça a créé quand même déjà un premier choc dans la population. Le lendemain, il a vu qu'il y avait eu encore plus de dégâts et de protestations. Et il a annulé la hausse du prix du ticket de métro, mais c'était déjà plus suffisant. Et il a décrété le couvre-feu, donc nouveau choc pour les habitants. On a l'impression qu'il ne sait pas comment réagir. Et tout à l'heure, il y avait une conférence de presse donc au Palais de la Moneda de plusieurs ministres. Il y a un journaliste qui demandait quand est-ce que vous allez répondre sur le fond des demandes sociales. Et les ministres ne savaient pas quoi répondre. Ils étaient en train de dire, on est en train de donner un bilan des services publics qui fonctionnent, qui ont été endommagés ou pas, du nombre de blessés. Mais ils n'ont pas apporté pour l'instant de réponse sur le fond.
Est-ce qu'il y a eu, Cécile Faliès, des promesses non tenues en termes de social, ou au fond, ce président Piñera, et peut-être la prédécesseur aussi, a oublié, en fait, et a en tout cas travaillé, gouverné, sans toute cette partie de la population?
Alors, cette partie de la population, il faut quand même la nommer, hein. Je pense que c'est y compris des classes moyennes, et des classes moyennes qui sont parfois aisées en fait, hein. Donc qui sont vraiment très déçues. Et on en est arrivé à une situation au Chili, dans ce pays émergent, hein, où cette classe moyenne, elle est devenue presque majoritaire. Mais elle reste très fragile au moindre, j'ai envie de dire, problème de crise économique, mais simple aussi aléa de la vie.
Parce qu'il y a zéro filet de sécurité derrière.
Voilà,
et que quand
une entorse,
on tombe,
vous pouvez plus aller travailler, vous êtes licencié, et puis c'est toute votre famille qui peut ne plus aller à l'école pendant, parce que vous pouvez plus payer le semestre dans une école privée. Donc c'est quand même très compliqué. Et ces promesses qui ont été faites, alors de la part de Piñera, je pense qu'il n'y a pas eu de promesses vis-à-vis de cette classe moyenne. Il y a eu, il y a quand même une tentative hein, depuis maintenant quelques mandats de faire une réforme fiscale, donc sur la question des impôts, et qui n'arrive pas vraiment à aboutir. Donc là, en août, il y a eu un petit retoquage de cette loi, mais c'est vrai que c'est très difficile à mettre en place.
Justine Fontaine, si d'aventure ces scènes-là se reproduisent et que le gouvernement Piñera est réellement en danger, est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que ça existe une opposition structurée aujourd'hui, quelqu'un prêt à aller au pouvoir? Qu'est-ce qui se passe si on demande la destitution, la fin, la démission, peu importe, de Piñera? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière?
Pour rebondir un peu ce qui se disait avant, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être, je sais pas si c'est des promesses non tenues, mais des espoirs déçus depuis la fin de la dictature, dans le sens où par exemple, au moment du plébiscite oui ou non à Pinochet, il y avait des grandes promesses de l'opposition de dire que la vie allait être meilleure, etc. Ce qui s'est concrétisé jusqu'au début des années 2000 avec les forts taux de croissance dont on parlait. Mais le modèle instauré par Pinochet sous la dictature, avec des réformes néolibérales parfois extrêmement dures, beaucoup de privatisations, il a été modifié seulement à la marge. Et c'est aussi pour ça que les gens protestent aujourd'hui, parce que ce qu'on disait, le système de santé, les retraites, l'éducation sont très chers, peu performants, peu satisfaisants pour les Chiliens.
Très très rapidement, pour revenir à la question que je posais sur un éventuel plan B, en quelque sorte, moi je me souviens que pendant les présidentielles précédentes, il y avait eu ce mouvement dont j'oubliais le nom,
Frente Amplio,
merci beaucoup, qui était mené par Beatriz Sanchez, qui était arrivée troisième de manière assez étonnante en fait. Est-ce que ça existe, une espèce de mouvement qui ressemblerait aux indignés espagnols en fait, ou est-ce que ça représente pas grand-chose finalement? Très vite, pardonnez-moi.
L'union bah, ils ont fait, pris allez-y. De cours, hein, je crois.
Allez-y, Cécile Fayez.
Dans les 2-3 jours depuis le début des événements,
aussi,
ils sont pris de court en fait. Les partis politiques traditionnels ou même les mouvements comme ça, comme Frente Amplio, sont pris de court. Je ne sais pas s'il y a eu des déclarations.
Ils ont dit qu'ils voulaient pas se mettre à la table des négociations avec le gouvernement tant que l'état d'urgence n'était pas levé. Et de fait, c'est pas eux qui ont une prise sur le mouvement social. Même si là, il y en a certains qui ont dit qu'ils soutenaient, certains qui sont apparus dans des rassemblements dans le centre de Santiago. Mais ils ont pas l'air prêts, en tout cas, à avoir une réponse suffisante et un leadership suffisant dans ce conflit, je pense.
Voilà, ce qui veut dire qu'on va en entendre reparler probablement et très très vite. Merci beaucoup. Merci Cécile Fayez, merci Justine Fontaine. Vous rentrez à Santiago. Dépêchez-vous qu'on vous réentende dans Un jour dans le monde. Merci à tous.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite du 18-20, c'est le bruit du monde et l'hommage que Cuba a rendu ce week-end à Alicia Alonso. Et c'est pour vous, tiens, Amélie, qui allait nous parler de James Joyce.
Aussi, en Irlande. L'Irlande qui réclame le retour de la dépouille du grand écrivain.
Le Monde, selon Trump, c'est Loïc Loury. Il a toujours en travers de la gorge son histoire d'hôtel pour le G7, le président Trump, Loïc.
Oui, absolument. Il renonce à organiser le G7 dans son golf club de Floride. Son caprice n'est pas passé, Fabienne, auprès de ses propres partisans.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Salam, bonsoir.
Et ce qui se passe au Liban est très différent de
ce qui
s'est passé en 2011, vous dites.
Liban, Algérie, Irak, oui, ça ressemble à 2011, mais c'est encore plus fort.
Allez, à tout de suite tout le monde. Voici les Temptations, Ain't Too Proud to Beg. I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, 'cause you mean that much to me. Ain't too proud to beg, and you know it. Please don't leave me, girl. Ain't too proud to plead, baby, baby. Please don't leave me, girl. Now I heard a crying man is half a man with no sense of pride, but if I have to cry to keep you, I don't mind weeping. If you'll keep
Cuba que nous emmène le bruit du monde ce soir. Vous vous souvenez que c'est ici même jeudi qu'on a annoncé la mort d'Alicia Alonso, légende cubaine du ballet classique, danseuse et chorégraphe adulée donc dans son pays. Elle allait avoir 99 ans. Elle était passée entre autres par le ballet de l'Opéra de Paris, par Broadway, par Moscou. On a entendu évidemment des hommages, mais voici ce que les Cubains, qui n'aiment pas que la salsa, donc ont voulu offrir à leur danseuse 3 jours de deuil et un grand théâtre ce week-end qui n'a parlé que d'elle. Un grand théâtre d'ailleurs renommé depuis 2015, Théâtre Alicia Alonso. Le reportage est signé Romane Frachon.
Au milieu des stèles colorées, on aperçoit un cercueil blanc couvert d'une nappe en dentelle. L'Orchestre Symphonique National Cubain l'entoure. Cette fois, ce n'est pas comme pour les funérailles de Fidel Castro. Les Cubains peuvent voir le corps de la défunte. Et ils sont nombreux à faire la queue. La télévision les a convoqués pour faire leurs adieux à la prima ballerina assoluta. Une vitre sépare les visiteurs du visage d'Alicia Alonso. Elle est là, maquillée, presque rayonnante. Et ni la pluie, ni sa mobilité réduite n'a découragé Raquel Collazo, 84 ans, qui l'a vue danser avant la Révolution.
Alicia dansait déjà du temps du capitalisme. Elle est partie danser ailleurs car elle ne voulait pas rester ici. Elle était contre ce régime épouvantable. C'était du temps de Batista. Elle a développé ses talents dans des villes importantes comme New York, Paris, Moscou. C'était la moindre des choses que je fasse l'effort de venir et de lui présenter ma gratitude pour avoir été si formidable. Pour Cuba, naturellement, mais aussi pour le monde entier. Vous l'avez vue ? Même morte, elle est tellement belle.
Sur le livre de condoléances, on peut lire « Alicia, la guerrière ». Il faut dire qu'à l'âge de 20 ans, elle était devenue presque aveugle, mais elle a continué à danser, malgré les contre-indications des médecins, et ce, jusqu'à plus de 70 ans. Un bus rempli de petits rats d'opéra vient d'arriver. Reynold a 15 ans et il sait déjà ce qu'il veut.
On veut tous réussir à être comme elle, parce qu'elle est l'exemple de tous les Cubains qui veulent être danseurs. Elle était, elle est et sera toujours la déesse de la danse. Aujourd'hui, si on peut se vanter d'avoir une école reconnue, si on a cette culture du ballet à Cuba, c'est grâce à elle. Elle a beaucoup fait avancer la culture cubaine. Avant, le ballet était réservé aux femmes. Et après la Révolution, pareil. Le ballet, c'était pas pour les hommes. Elle a intégré des danseurs masculins dans sa compagnie. Mais sincèrement, ça reste compliqué pour un garçon.
Elle aurait donc eu aussi un rôle politique. Rafael González est président de l'association Hermanos Saiz, qui regroupe de jeunes artistes cubains. Il rappelle qu'Alicia Alonso avait insisté auprès de Fidel Castro pour faire baisser le prix du billet d'entrée à l'opéra.
Le ballet national cubain est l'un des ballets les plus chers à l'échelle mondiale, sauf à Cuba. Ici, n'importe quel cubain peut entrer dans n'importe quel théâtre de sa ville. Au grand théâtre, cela coûte autour de 20 pesos. On parle de 50 cents de dollars, un billet pour voir un ballet de standard mondial. Alors qu'ailleurs dans le monde, voir la compagnie la plus prisée du monde coûterait 50 euros facile. Parce que la révolution cubaine, c'est ça. La culture pour tous, le ballet pour tous, le théâtre pour tous.
Ce qu'il ne dit pas, c'est que les danseurs sont payés une 20aine d'euros par mois et qu'à chaque voyage de la compagnie, certains restent à l'étranger. D'un coup, l'apparition d'un groupe d'hommes en guayabera, la chemise traditionnelle cubaine, fait taire la foule. Raúl Castro accompagne le nouveau président cubain, Miguel Díaz-Canel, une main sur le cœur. Les hommes d'État vont s'approcher du cercueil pour le soulever et le mettre dans la voiture qui emmènera Alicia au cimetière Colón, l'un des plus grands au monde. Le ministre cubain de la Culture, Alpidio Alonso, rappelle que malgré les propositions alléchantes à l'étranger, la danseuse est restée fidèle à sa patrie.
Elle a dû affronter le chantage du gouvernement américain. Et elle l'a fait avec une dignité extraordinaire. Dès lors, Alicia est restée plantée dans le cœur du peuple cubain. Elle fut une véritable ambassadrice de la révolution cubaine. Alicia, c'est un exemple de cohérence entre vie et œuvre. Et si nous traversons un moment très douloureux actuellement, cette douleur ne peut se comparer à l'admiration que notre peuple ressent pour elle.
Et la Salicia Alonso, ce n'est pas que le modèle révolutionnaire. De nombreux témoignages d'anciens élèves l'accusent de racisme. Même aveugle, elle touchait les cheveux de ses candidats pour identifier leur origine. Le film Yuli, sorti en juillet, raconte le succès de Carlos Acosta, premier danseur cubain métis. L'État a censuré les scènes montrant Alicia Alonso odieuse avec Acosta, celui-ci lui a pourtant rendu un hommage très intime de ses mots « Adieu, maman ».
Merci Roman Frachon, le lac des Signes, donc au pays de la salsa, vous avouerez que c'est pas banal. Merci beaucoup. Le bruit du monde quand il passe sous les radars, c'est le retour d'Amélie Perrier. Ce sont des gorilles qu'on entend là autour de nous, Amélie. Un conflit en République démocratique du Congo autour de gorilles donc et de la forêt qui les abrite.
Un conflit armé qui a fait un mort hier, un chef de milice accusé de déboisement. Il a été tué pendant des combats contre un groupe rival dans la réserve de Kahuzi-Biega. Ce parc naturel se situe dans l'est de la RDC, pas très loin du lac Kivu et du Rwanda. C'est là que vivent ces grands singes. Et le problème, ce sont donc les milices qui coupent les arbres pour fabriquer du charbon de bois vendu pour le chauffage. La terre regorge également de minerais. Et la milice du combattant tué ce week-end est également accusée d'avoir conclu un pacte de coalition avec les pygmées. Car ces pygmées sont pour leur part en guerre contre les éco-gardes, les rangers. Les pygmées affirment avoir été spoliés de leur terre ancestrale dans les années 70, quand le parc naturel s'est étendu. Ils sont venus se réinstaller dans la réserve l'an dernier. Mais les rangers disent aujourd'hui qu'ils se font manipuler. Écoutez le directeur du parc national.
Oui, les pygmées ont été instrumentalisés pour se donner à la destruction du parc par la coupe de bois, le charbon de bois, l'assillage de bois et même l'extraction minière. Et toutes ces activités sont incompatibles avec la conservation et ce sont des activités qui détruisent même l'habitat des gorilles.
Voilà, ce parc de Kahuzi-Biega a été inscrit au patrimoine mondial des biens en péril il y a une vingtaine d'années. Les gorilles des plaines de l'Est sont parmi les espèces menacées. Il resterait aujourd'hui seulement 250 individus. Le Sud Kivu est leur dernier sanctuaire. S'il est aussi celui des pygmées et si leurs revendications de se réapproprier leurs terres sont légitimes, les défenseurs de l'environnement affirment qu'ils sont armés et financés aujourd'hui par des notables qui veulent continuer d'exploiter et de détruire la forêt congolaise. Et pour les autorités, c'est aussi un enjeu d'image et de tourisme. Les gorilles du parc attirent environ 2000 touristes par an. Les places sont limitées.
Des gorilles, on passe aux brebis et à l'Espagne aussi pour la grande fête de la transhumance.
Elle avait lieu hier à Madrid. Environ 2000 brebis, leurs cloches, vous les entendez, et leurs bergers ont envahi les rues de Madrid. C'est hier sur le bitume espagnol, une transhumance joyeuse, applaudie par les habitants et les touristes, accompagnée par des groupes de musique locaux, de la Casa de Campo, le plus grand parc de la capitale espagnole, vers la place de la Puerta del Sol, en plein centre, puis devant le siège de la Banque d'Espagne et l'hôtel de ville. Depuis 25 ans, c'est la tradition, les troupeaux défilent à Madrid sur un parcours autrefois recouvert de prairies et de forêts, mais aujourd'hui totalement urbanisé. C'est un rythme menacé, hein. Les éleveurs le savent, par les villes et la circulation toujours plus puissante.
Allez, on termine avec des Irlandais qui aimeraient voir l'un de leurs héros revenir au pays.
We begin. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, great was my admiration in listening to the remarks addressed.
Alors vous excuserez la qualité sonore. James Joyce, c'est sa voix. Hein. Je vous ai retrouvé un enregistrement de sa voix en 1924, la voix de l'auteur génial d'Ulysse ou des Dubliners. Des habitants de la capitale irlandaise, justement, ont lancé une campagne pour rapatrier sa dépouille. Car si Joyce est né à Dublin, dans le quartier de Rathgar, il a beaucoup vécu à l'étranger. Relation difficile avec son pays de naissance, trop soumis, selon lui, à l'église catholique. Il est mort en Suisse, à Zurich, où il a été enterré en 1941. L'histoire de sa dépouille a toujours été controversée car quand il meurt en janvier 41, le gouvernement irlandais, sous la coupe de l'église, refuse de rapatrier son corps. Aujourd'hui, le comité de son quartier de naissance a entamé les démarches pour le faire revenir en Irlande. Dans l'idéal, à temps pour le 100e anniversaire de la publication d'Ulysse, c'est en février 2022. Un juste retour des choses selon eux, car malgré ses relations difficiles avec son pays, avec l'église irlandaise, il a pris Dublin comme décor pour ses plus grandes œuvres. Aujourd'hui, par exemple, tous les 16 juin, ses admirateurs lisent et recréent des scènes d'Ulysse dans la capitale irlandaise. Pourquoi le 16 juin ? Eh bien parce que le roman se déroule le 16 juin 1904.
Voilà, de 8h à 3h du matin. Merci beaucoup Amélie, à demain. Voici Tamino sur France Inter. Il est belge d'origine et égyptienne. Sacré mélange, la chanson s'appelle Crocodile et c'est dans la playlist d'Inter.
tell. Something inside will rise up, but quietly coming up. It's not sorry to interrupt.
Sur France Inter, Crocodile, allez direction les États-Unis et la planète étrange de Donald Trump.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
On en a parlé tout le week-end aux États-Unis. Le Iglouri, Donald Trump n'invitera pas en juin 2020 les dirigeants des grandes puissances dans l'une de ses propriétés. Le président comptait tenir le prochain G7 dans son hôtel golf de luxe en Floride. Mais c'est pas si simple.
Ah oui, un golf club, hein, d'abord, comme le président milliardaire les affectionne, il en possède un certain nombre. On parle ici du Trump National Doral Resort de Miami en Floride. Donald Trump avait lancé l'invitation à la fin du précédent G7 en France et il savait, Fabienne, que cela allait lui attirer les critiques. Il l'a dit à son entourage, mais comme d'habitude, eh bien, tout cela lui est passé au-dessus de la tête. Le président a donc été attaqué comme prévu, notamment sur les problèmes éthiques de conflits d'intérêts que cela soulève. Il a renoncé ce week-end et envoyé quelques tweets sur le sujet. Rebelote, ce matin, Doral à Miami, dit-il, aurait été le meilleur endroit pour tenir le G7, ça aurait été gratuit, mais c'était, sans compter sur les démocrates, bons à rien, dit-il, radicaux de gauche et leurs partenaires, les médias menteurs. Voilà ce que disait hier sur Fox News son chef de cabinet, Mick Mulvaney, pour le défendre.
Je crois sincèrement que ce que vous avez vu sur Twitter est vrai. Le président n'est pas du genre à retenir ses émotions à propos de quoi que ce soit. Il était vraiment surpris de la virulence des critiques. Au bout du compte, il se considère toujours dans le business de l'hôtellerie. Il a vu une chance d'emmener les plus puissants leaders à l'endroit les plus fantastiques possibles. Et il était très confiant à propos de Doral. C'est son background. C'est comme moi. J'étais dans l'immobilier avant. Je ne sais pas ce que vous faisiez, vous, avant d'être journaliste.
Voilà, et c'est à se demander, Fabienne, si Donald Trump effectivement se rend bien compte du problème. En juin, il avait ainsi loué les qualités de son hôtel, génial, grand, proche de l'aéroport selon le président. Il l'a redit ces derniers jours sur Twitter, déçu sans doute de ne pas pouvoir montrer sa belle propriété à ses partenaires du G7.
Mais alors, sauf que c'est pas sous la pression des démocrates que le président a reculé finalement.
Eh bien non, l'opposition bien sûr l'a conspué. Les démocrates ont signé une proposition de loi pour empêcher le projet d'aboutir. Le texte a été baptisé le coup de Trump nuit au G7, dont l'acronyme en anglais est THUG, qui signifie voyou. Mais en réalité, ce sont bien les républicains qui ont forcé la main du président. C'est plutôt rare depuis qu'il est au pouvoir, mais c'est de plus en plus fréquent. Donald Trump a d'abord pu se rendre compte de leur désapprobation sur Fox News, la chaîne pourtant très conservatrice devant laquelle il passe énormément de temps. Il en a été ensuite informé lors d'une série de coups de fil tout le week-end. Les républicains sont en fait fatigués, lui a-t-on dit, de le défendre sur tous les fronts, notamment depuis le lancement, bien sûr, de la procédure en destitution. Il fallait abandonner à tout prix cette idée d'un G7 à Miami. Après tout, Fabienne, 10 jours avant sa prise de fonction, le président avait promis qu'il se retirait de ses propres affaires. Il comptait pourtant inviter donc les délégations de 6 pays dans son hôtel, 7000 personnes environ, sans compter que la météo à Miami en plein été, c'est pas franchement l'idéal pour tenir un sommet.
Et en effet, allez, un Donald Trump pas toujours fidèle à ses engagements, même s'il est une promesse qu'il respecte parfois pour le pire, c'est celle de rapatrier les soldats américains, Loïc.
Et on pense bien sûr au départ annoncé des soldats présents en Syrie, mais on apprend aussi ce matin que 2000 soldats ont quitté l'Afghanistan sans que cela soit rendu public. Le commandant des forces américaines dans le pays évoque une simple optimisation. Alors Washington a donc procédé à ces rapatriements alors que des négociations avec les talibans étaient pourtant en cours et prévoyaient justement un retrait des forces américaines en échange de concessions des rebelles. Il resterait toutefois 13 000 soldats américains actuellement en Afghanistan.
Allez, une dernière chose, un nouveau mémorial a été inauguré à la mémoire de Emmett Till, dont l'assassiné en 1955 fut l'un des déclencheurs du mouvement afro-américain des droits civiques.
Oui, un assassinat particulièrement brutal dans la région du delta du Mississippi, affaire très connue ici aux États-Unis. C'était pas le premier mémorial à être érigé à Sumner dans cette même région, c'est même le cinquième, mais tous ces mémoriaux ont été vandalisés. Ça ne devrait plus arriver cette fois. La nouvelle plaque, en effet, pèse 230 kilos, elle est entourée de caméras, elle est résistante, surtout aux balles. Il faut dire que la précédente avait été criblée de tirs d'armes à feu plus tôt dans l'année. Le monument, Fabienne, se trouve là où le corps d'Emmett 14 ans torturé, tué, avait été sorti de la rivière Tallahatchie.
Loïc Loury à New York pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup Loïc.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la contestation continue au Liban avec d'énormes manifestations à nouveau aujourd'hui. On ajoute les autres mouvements de contestation, donc l'Algérie, l'Irak, l'Égypte aussi également. Il est tentant de faire une sorte de parallèle avec les printemps arabes de 2011, mais pour vous, les apparences sont trompeuses. Il y a plusieurs différences avec les événements d'il y a 8 ans et c'est votre Monde à l'envers.
Oui, c'est tentant et puis ça simplifie le travail de dire que l'histoire se répète. En réalité, nous sommes 8 ans plus tard, il y a de vraies différences et pas seulement parce que ce nouveau printemps se passe en automne. D'abord, il y a aujourd'hui dans toutes ces contestations un thème qui écrase tous les autres. C'est la dénonciation de la corruption qui est devenue insupportable aux yeux des manifestants. C'est le sujet qui fédère au Liban, au-delà des confessions, des allégeances partisanes. Ce qui a mis le faux poudre, on sait, c'est la taxation de la messagerie WhatsApp, mais ça c'est juste l'étincelle finale. La colère, elle est plus profonde, elle naît du contraste entre d'un côté la gabegie l'affairisme des élites, de l'autre, la pauvreté, le chômage croissant, les coupures d'eau, d'électricité. C'est la même chose en Irak, où le slogan principal des manifestants, c'est « Dehors les corrompus !» Les chiffres officiels estiment à plus de 450 milliards de dollars l'argent public détourné dans le pays. Là encore, corruption d'un côté, chômage et pauvreté de l'autre. Et c'est encore cela qui met les Algériens dans la rue depuis des mois au cri de « voleur !» Ce sentiment qu'une élite corrompue se sert sur le dos d'un peuple appauvri. Même chose en Égypte, même si le pouvoir fait tout pour empêcher la contestation. Même chose dans un autre genre, en Tunisie, où l'inconnu Kais Saied a donc gagné la présidentielle sur son image de monsieur propre. Il y a 8 ans, la dénonciation de la corruption était bien sûr présente. On pense en particulier au premier des soulèvements, c'est-à-dire la Tunisie. Mais le thème n'était pas aussi primordial. C'était davantage une quête de liberté tout court.
Mais enfin, quand même, ce sont malgré tout des révoltes contre les pouvoirs en place qui sont en cours comme il y a 8 ans, en fait.
Oui, c'est vrai, mais cette fois-ci, le mécontentement est plus global. Il y a 8 ans, on était en présence d'un rejet des dirigeants en place depuis des décennies, emblème d'autoritarisme, de concentration des pouvoirs, Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, Assad en Syrie. Cette fois, c'est pas la dénonciation d'un homme, c'est la dénonciation d'un ensemble, d'un système. Système politique tout entier. C'est une deuxième différence. D'ailleurs, ce sont les Algériens qui ont les premiers porté ce discours. Ils le portent toujours et ils critiquent le système. Ce système où, en l'occurrence, l'armée et le FLN ont cadenassé les postes de pouvoir avec des partis fantoches ou alibis. Les Libanais disent exactement la même chose. Ils ne supportent plus le système tout entier. La confiscation du pouvoir et de l'argent par une cohorte d'anciens chefs de milices qui sont devenus des affairistes. La mainmise depuis 30 ans des mêmes hommes sur l'État, les Aoun, Berri, Jumblat, etc. Tous septuagénaires et octogénaires, soit dit en passant, comme en Algérie. Mmh. La vague de dégagisme est la même en Irak, où depuis la chute de Saddam Hussein il y a 16 ans, une même élite verrouille là aussi les affaires. Et ce rejet du système lui-même, bien au-delà des dirigeants qui l'incarnent, il est d'abord le fait des jeunes. Il y a 8 ans, ceux-là, ils étaient encore dans l'enfance ou dans l'adolescence. Mmh. Et vu la pyramide des âges dans le monde arabe, l'évolution, elle est très rapide. Ces soulèvements, ce ne sont pas ceux de 2011, ils en sont les descendants. Cette jeunesse, elle dénonce une société figée, des partis rouillés, elle se dit apolitique. En fait, elle fait vraiment de la politique au sens premier du terme.
Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut tourner très différemment d'il y a 8 ans.
On va le souhaiter, parce que vu comment ont évolué les révolutions arabes, et vu comment ça a tourné depuis 8 ans. Mais c'est pas gagné cette fois-ci non plus, pour plein de raisons. Et de une, les pouvoirs en place, comme il y a 8 ans, vont avoir la même tentation de la répression violente. C'est déjà en cours en Algérie, arrestations d'opposants multipliées ces dernières semaines. En Irak aussi, où les affrontements ont déjà fait 110 morts, 60 000 blessés. Et de deux, il y a en coulisses des forces qui attendent leur heure pour entrer en scène, récupérer la mise. Des marionnettistes, si vous voulez. On peut penser par exemple aux chiites Moqtada Sadr en Irak, ou à certains mouvements islamistes sunnites qui possèdent une organisation sociale et caritative très structurée dans plusieurs pays arabes. Puis il ne faut pas oublier non plus certains grands parrains extérieurs comme la Russie, qui n'a aucune envie de voir disparaître les régimes autoritaires de la région. Cela dit, la maturité, la détermination de ces mouvements de contestation dans le monde arabe sont saisissantes. C'est ça qui rend le moment incertain et passionnant. Une nouvelle fois, au Maghreb, comme au Proche et au Moyen-Orient, l'histoire hésite.
Jean Marfour, et le monde à l'envers, on y reviendra probablement assez vite, voire demain d'ailleurs au Liban. Jean-Marc, merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Et juste avant, il y a le journal de Pierre Veil. Merci de passer la soirée avec nous.